VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est midi à Niamey, le même temps en temps universel. Emmanuel Macron va fêter Noël avec quelques heures d'avance en compagnie des forces françaises déployées au Niger dans le cadre de la lutte contre le groupe djihadiste au Sahel. Une semaine après un sommet sur le Sahel à Paris, le chef de l'État français va visiter vendredi soir et samedi la base de l'opération Barkhane à l'aéroport de Niamey où sont stationnés quelques 500 soldats français. Emmanuel Macron sera accueilli vendredi après-midi par son homologue Mamadou Issoufou qui le recevra le lendemain à la présidence à Niamey. En Guinée, les candidats aux élections communales ont 6 jours en plus pour déposer leur dossier. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé ce mercredi avoir prorogé le délai initial de réception des candidatures aux élections locales du 4 février prochain. Les explications à Conakry avec notre correspondant Zakaria Kamara.
Les candidats indépendants et les partis politiques ont jusqu'au 26 décembre pour déposer leur dossier de candidature. 6 jours de plus demandé par les acteurs politiques et accepté par la Commission électorale nationale indépendante. Mais si le délai est repoussé, la date du 4, jour du scrutin, n'est pas impactée, a précisé le porte-parole de la CENI. Chaque candidat doit constituer un dossier qu'il doit déposer dans les commissions électorales communales indépendantes. Les candidats doivent fournir un acte de naissance, un casier judiciaire, un reçu bancaire, un certificat de résidence, mais obtenir ces documents n'est pas sans difficulté. Les acteurs politiques ont donc besoin du temps. Plus de 100 candidatures, dont 6 indépendantes, sont enregistrées et validées selon la Commission électorale nationale indépendante. Attendu depuis 7 ans, le scrutin qui aura lieu le 4 février 2018 est très attendu en Guinée, d'autant qu'il est l'une des principales revendications de l'opposition. Conakry, Zakaria Kamara pour VOA Afrique.
Après une semaine de grève, les enseignants de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, ils ont repris le travail hier. Ils ont obtenu satisfaction sur le paiement des heures supplémentaires. Solange Diamoulissa.
Kwasi Zamina Johnson, secrétaire général de la Coordination nationale des enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire, a expliqué que les heures supplémentaires effectuées durant l'année 2015-2016 ont été intégralement réglées, c'est-à-dire quelques 8 173 millions de francs CFA. La grève a été suspendue en assemblée générale et aujourd'hui tous les cours devront être assurés normalement. Les professeurs s'étaient mis en grève le 12 décembre, paralysant totalement l'université Félix Houphouët-Boigny. Les enseignants du supérieur effectuent beaucoup d'heures supplémentaires car l'État n'embauche pas assez de professeurs. Le syndicat regrette que le problème de leur paiement s'épose chaque année depuis 2006. Le gouvernement et les syndicats ont signé en août une trêve sociale de 5 ans, moyennant le paiement sur plusieurs années d'arriérés de salaire à environ 130 000 fonctionnaires.
Le nouveau président du Congrès national africain, ANC au pouvoir en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a conclu la conférence de son parti en promettant d'éradiquer la corruption et d'accélérer la transformation radicale de l'économie. Nous devons mettre un terme à la corruption et nous devons le faire immédiatement, a déclaré M. Ramaphosa lors d'un discours prononcé dans la nuit de mercredi à jeudi devant quelques 5000 délégués de l'ANC réunis à Johannesburg. M. Ramaphosa fait désormais figure de favori pour succéder à M. Zuma à la tête du pays à l'issue des élections de 2019. Vous écoutez VOA Afrique. Le coordonnateur de l'ONU pour les affaires humanitaires au Soudan du Sud, pays secoué par une guerre depuis 4 ans, a annoncé mercredi que 6 travailleurs humanitaires portés disparus dans le nord-ouest du pays étaient de retour sains et saufs. L'ONG française Solidarité Internationale avait annoncé plus tôt dans la même journée que les 3 travailleurs humanitaires dont elle était sans nouvelles depuis dimanche étaient hors de danger et avaient été récupérés mercredi. Le Fonds monétaire international a approuvé mercredi l'octroi d'une nouvelle tranche de prêts de quelque 2,03 milliards de dollars en faveur de l'Égypte, soulignant notamment une reprise de la croissance et la modération de l'inflation au pays des pyramides. Il s'agit de la 3e tranche accordée dans le cadre d'un vaste programme d'un vaste plan d'aide d'un montant total de 12 milliards de dollars qui avait été annoncé en novembre 2016. Avec cette troisième tranche, ce sont environ 6,08 milliards qui ont déjà été décaissés, a souligné le FMI dans un communiqué. La sécurité alimentaire en Afrique du Nord et au Moyen-Orient se détériore rapidement à cause des conflits, a estimé l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, dans un rapport publié ce jeudi au Caire, en Égypte. Selon ce dernier rapport, l'écart se creuse entre les pays en conflit, la Syrie, l'Irak, le Yémen, le Soudan et la Libye et les autres. Le niveau de sous-alimentation dans les pays en conflit est maintenant 6 fois plus important, a précisé la FAO. Les cas de choléra suspectés au Yémen, pays en guerre depuis plus de 2 ans, se chiffrent désormais à 1 million, a annoncé aujourd'hui le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR. Les cas de choléra suspectés ont atteint la barre du million, ce qui amplifie les souffrances du pays pris dans une guerre brutale, a indiqué l'organisation aujourd'hui dans un tweet. À Washington, il est 6h06.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Et c'est la même heure à New York. Israël rejette par avance le vote sur Jérusalem prévu aujourd'hui aux Nations Unies. À New York, cette maison des mensonges, a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Jérusalem est la capitale d'Israël, que l'ONU le reconnaisse ou non, a dit le Premier ministre israélien cité par ses services avant que l'Assemblée générale de l'ONU ne se prononce sur une résolution condamnant la reconnaissance par Washington de Jérusalem comme capitale d'Israël. Ici même à Washington, le président américain Donald Trump brandit des menaces contre les pays membres de l'ONU qui vont voter la résolution condamnant la reconnaissance par Washington de Jérusalem comme capitale d'Israël. Eric Manirakiza.
L'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, a déclaré que le président Trump suivra attentivement son vote et lui a demandé de noter les pays qui vont voter contre sa volonté. Donald Trump menace de couper des financements américains à ces pays. Pour le patron de la Maison-Blanche, ces pays ne doivent pas prendre l'argent américain et voter contre les États-Unis à l'Assemblée générale de l'ONU. Le représentant turc à l'ONU a indiqué que la raison du plus fort n'a plus de place dans un monde qui combat l'injustice. Aucun État qui se respecte ne courbe les chines face à son genre d'oppression, a-t-il martelé. Lundi, Washington avait déjà mis son veto au Conseil de sécurité à un texte introduit par l'Égypte pour évoquer la décision américaine sur Jérusalem. Le projet de résolution soumis à l'Assemblée générale souligne que toute décision sur le statut de Jérusalem n'a pas de force légale et doit être révoquée. Le texte rappelle que Jérusalem doit faire partie d'un accord global de paix entre Israéliens et Palestiniens.
Les 3 principaux partis de l'opposition vénézuélienne qui ont boycotté les élections municipales devront se réenregistrer pour pouvoir participer à l'élection présidentielle de 2018, a déclaré hier un haut responsable. La décision a été prise par l'Assemblée constituante élue à l'initiative de M. Maduro, le président, entré en fonction lui-même en août dernier, composé uniquement de partisans du camp présidentiel et qui dispose de pouvoirs presque illimités, c'est l'Assemblée constituante bien entendu. Visées par les sanctions internationales, les entreprises nord-coréennes en Chine ont moins de 3 semaines pour mettre la clé sous la porte, qu'il s'agisse de restaurants avec serveuses chantantes ou de sociétés d'import-export. La Chine, qui assure 90% du commerce extérieur de la Corée du Nord, est aux avant-postes des sanctions adoptées en septembre aux Nations Unies après le dernier essai nucléaire du régime de Kim Jong-un. Le Conseil de sécurité avait alors donné 4 mois aux pays membres pour fermer les entreprises à capitaux nord-coréens. En Chine, cela se traduit par une date butoir fixée au 9 janvier 2018. Et puis, pour terminer, une voiture a foncé délibérément ce jeudi dans une foule de piétons à Melbourne, la 2e ville d'Australie, blessant 14 personnes, dont certaines grièvement, ont annoncé les autorités. La police de l'État de Victoria a annoncé l'arrestation du conducteur ainsi que d'une deuxième personne. Le drame est survenu après 16h30 à un carrefour très fréquenté au centre de Melbourne, dans le sud-est de l'Australie. Jean-Roger Billon, le prochain journal dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.